faut vraiment se représenter la scène. Elle est juste digne d'une comédie burlesque. Imaginez trois individus vêtus de jogging bleu identique, avec des perruques super bon marché, qui dérobent une toile de Modigliani en plein jour et qui prennent la fuite en trottinette électrique.
Ouais, non mais l'image est incroyable.
C'est complètement fou. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre mission, pour cette nouvelle exploration, c'est de plonger dans les sources du récit faux et usage de faux. On va analyser comment ce braquage de musée totalement absurde se transforme en fait en une brillante satire sur l'illusion et la valeur qu'on accorde aux choses.
Et ce qui frappe d'emblée, quand on lit les rapports d'enquête, c'est l'identité des coupables. Parce que derrière cette fuite rocambolesque, on s'attend à un réseau criminel super organisé. Mais pas du tout. On trouve juste trois paisibles retraités, Poirot, Didello et Ballot.
Et le détail qui change absolument tout, pour le coup, c'est qu'ils ont tous les trois été condamnés par un cancer en phase terminale. Enfin, c'est comme si un grand film de braquage hollywoodien avait été réécrit pour les pensionnaires d'une maison de retraite.
C'est exactement ça. Et le décalage y va encore plus loin. Parce que leur motivation, ça relève pas du grand banditisme, quoi. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils cherchent juste à financer d'ultimes rêves familiaux, en fait.
Genre des choses toutes simples.
Voilà. Il y en a un qui veut disperser les cendres de son épouse sur le Vésuve. L'autre veut emmener ses 15 petits-enfants à Euro Disney. La délinquance ici, c'est vraiment le produit d'un désespoir hyper profond.
Avec une arrestation qui est purement tragicomique. D'après les archives, quand la police débarque chez Poirot, c'est la panique totale. Il jette sa perruque dans un four qui contient déjà un plat de lentilles et en plus...
Ah ouais, le plat de lentilles, c'est magique.
Et pour dissimuler la clé de son coffre, il l'insère de manière, disons, très intime.
Très, très intime, ouais.
On pourrait s'arrêter à ce côté vaudeville. La véritable ironie de l'histoire, elle se cache dans le butin lui-même. Qu'est-ce que le dossier révèle sur ce fameux Modigliani volé, la femme brune ?
C'est là que l'affaire bascule complètement. Le tableau qu'ils ont risqué leur vie pour dérober, c'est pas du tout un chef-d'œuvre inestimable, c'est un faux.
Et le plus dingue dans les notes du musée, c'est que l'institution s'en cachait même pas. La conservatrice l'avait délibérément exposé juste en face d'une vraie toile de l'artiste.
Oui, avec un panneau très clair juste en dessous. Il y avait une mention inscrite en toutes lettres « Ceci est un faux ». Le but, à la base, c'était vraiment de faire réfléchir le public sur le jugement des experts en art, quoi.
Mais attends, ce qui m'échappe, c'est pourquoi ces voleurs ont totalement ignoré le panneau d'avertissement ? Pourquoi s'emparer de la copie plutôt que de l'original qui était juste en face ?
Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique même de notre cerveau. L'esprit humain, il a une préférence naturelle pour ce qu'on appelle la fluidité cognitive.
C'est-à-dire ?
Un faux, c'est conçu spécifiquement pour correspondre à nos stéréotypes, à l'idée préconçue, un peu rassurante, qu'on se fait d'un Modigliani. Ses traits sont lisses, ils sont évidents, alors qu'un véritable chef-d'œuvre, c'est souvent complexe, imparfait, voire carrément déroutant. Du coup, ils ont opté pour l'illusion parce qu'elle demandait beaucoup moins d'efforts intellectuels que la réalité.
C'est fou. C'est un biais de confirmation qu'on retrouve partout, en fait. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou face aux fausses nouvelles, on préfère toujours l'illusion qui valide nos croyances plutôt que la vérité qui nous bouscule.
Totalement. Mais nos sources montrent que cette naïveté, elle provoque une réaction en chaîne dévastatrice.
Ouais, j'ai vu dans les notes qu'il y a un commanditaire mystère, un certain tonton. Et quand il découvre que la toile est fausse, la situation dégénère complètement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
La violence fait irruption de manière hyper brutale. Ce tonton, il fait froidement assassiner Balladque. Il laisse même un message sanglant, écrit avec le sang de la victime sur le mur, quoi.
C'est glaçant.
Ouais. Cette tromperie artistique, elle engendre un meurtre bien réel. L'aveuglement, il contamine absolument tout le monde dans cette histoire, même du côté de la loi, pour le coup.
Ah oui, justement. Parlons des professionnels. Le commissaire Legendre, il perquisitionne chez la victime et il met la main sur le paiement des braqueurs. Un paiement dissimulé, de manière totalement absurde, dans un pot de confiture de ketch. Et il y trouve des pierres transparentes.
Et là, Legendre, il s'imagine instantanément qu'ils viennent trouver des diamants volés à la couronne hollandaise.
Non mais attends, on s'arrête deux secondes là-dessus. Un flic chevronné, il trouve des cailloux dans de la confiture de prunes au milieu de nulle part. Et sa première pensée, c'est « ce sont les joyaux de la couronne hollandaise ». C'est absurde. Comment on peut perdre pied à ce point ?
L'explication, elle se trouve dans la psychologie de l'ambition, tout simplement. Legendre, il refuse la réalité, bassement matérielle de sa fin de carrière en province. Pour que sa vie ait un sens grandiose, il faut que ses pierres soient des diamants.
Il a besoin de ce rêve, quoi.
C'est ça. Son besoin de reconnaissance écarte toute logique. Il construit son propre scénario pour échapper à sa banalité. Jusqu'à ce qu'un simple bijoutier local détruise tous ses espoirs avec une petite loupe. Ce ne sont que de vulgaires strass en verre.
Même face à des preuves accablantes.
Mais... Et si on relie tous ces éléments, ça soulève une interrogation un peu vertigineuse. Si un faux tableau, ça peut engendrer une mort véritable. Et si de vulgaires strass, ça peut susciter une ambition capable d'aveugler un enquêteur d'expérience, à quel moment exact l'illusion devient-elle la réalité?
Et ça, c'est une sacrée réflexion qu'on va laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent. En repensant notre image de départ, tu sais, ces trois retraités qui fuient en trottinette, on réalise qu'ils ne s'échappaient pas avec une œuvre d'art. Ils fonçaient, tête baissée, dans leur propre mirage. C'est une idée troublante à garder en tête lors de notre prochaine envie irrésistible de croire à un beau mensonge.